J'ai vraiment, je me suis laissé aller à une sorte d'introspection, donc c'est un texte introspectif plutôt, d'un type qui est prisonnier d'une sorte d'espace virtuel, qui raconte comment il en est arrivé là, comment il est arrivé au bout de sa logique de pensée, au bout de sa logique prisonnière finalement, et qui raconte son histoire de façon assez introspective finalement. Donc j'ai pas l'habitude de faire ce genre de texte. Ça m'a fait le faire, mais j'étais vraiment inquiet de faire l'action, c'est tellement agité qu'il ne va pas le voir. Donc, je me souviens du mec que j'ai envoyé à Jean, en disant, je m'apprends, surtout, je ne force pas. Voilà, c'est une habitude d'apprendre, c'est très gentil de ta part, mais voilà. J'ai pensé aussi que ça allait faire réagir beaucoup le milieu de la science-fiction, parce que ça parle de Dieu, de spiritualité, d'un tas de choses qui sont assez peu connues, courantes dans le genre. Hein. Je me souviens d'avoir fait une table ronde à 14 auteurs. Une fois, 14 c'est beaucoup, et on a demandé quels étaient les auteurs des sens plutôt spécialistes. J'étais le seul à me dire, mais voilà, donc je suis allé pour cette démarche, je veux pour cette logique, et vraiment, c'est une réflexion sur les mécanismes de la pensée, racine de la souffrance, et je pense que si on n'éradique pas cette racine de la souffrance, on aura toujours le même problème, quelle que soit l'évolution technologique. Et sans côté, c'est quelque chose qu'on l'a vu très différent, mais peut-être plus personnel. Oui, oui, certainement, parce que c'est là où je m'expose le plus, enfin, je me cache de moi, derrière moi. Même si je suis bloqué derrière l'histoire, bien que j'ai remarqué que les histoires ramènent des choses de soi, enfin, la fiction ramène des choses de soi qu'on n'a sûrement jamais prévues. Je pense que l'écriture est quelque chose qui drène très profondément l'inconscient. Et même si on a la sensation de beaucoup de choses, moi je ne fais en tout cas quasiment rien. Donc voilà, je ne suis pas planqué derrière des personnages, derrière une structure narrative. Je suis parti dans une sorte de plongée au fil de la plume, comme ça. Mais vraiment parce que de quel monde meilleur, c'est ce que ça m'inspirait, il faut dire. Mais, quels sont nos progrès depuis l'Antiquité ou même avant? Est-ce que nos structures sociales, est-ce que nos progrès, nos évolutions, nos passages à l'innovation ont vraiment résolu le problème humain? Je ne le crois pas. Je crois qu'il y a toujours autant de souffrance et d'injustice sur ce monde. Et voilà, la question qui s'est imposée à moi, c'est pourquoi? D'où sort cette propension humaine à la souffrance? Alors que, comme le croyait Jules Verne, quand il a commencé à faire ses études, il pensait que la science allait apporter quelque chose de nouveau et c'est quasiment le bonheur de l'humanité, et on s'aperçoit que c'est pas vrai. Donc il y a bien quelque chose en dessous qui est de l'ordre de la racine qu'il faut essayer de déterrer pour voir comment ce que c'est.
Alors, je vais vous poser une question à Jules Verne à propos de sa nouvelle, qui s'appelle Pixe Rouge. Et alors, sa nouvelle est assez amusante puisqu'il a imaginé un autre parallèle dans lequel Elvis, il n'est pas vraiment Elvis. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez l'idée puis peut-être résumer un peu l'histoire?
I was at a science fiction conference and I was on a panel about mythology. And we were discussing mythology and someone asked the question, well, how do you create a contemporary mythology? And my answer was that it is done by mass media in our contemporary society. We have mythological figures in our world. We have Elvis Presley, we have Marilyn Monroe, we have Bob Marley, we have Bruce Lee. Each of these people are demigods who have survived well past their own lifespan and entered popular culture. And so I got interested in the creation of a modern myth, and I looked into the life of Elvis Presley and his life came into many mythological patterns. He was a twin, and the twin was born dead. If you look in Greek mythology, there are a lot of twins, and one is mortal and one is a god. His mother was from a very deprived background, and she was kind of a witch woman. And she knew how to cast spells and how to create charms. and so on, and she was devoted to her son. And she aimed all of this magic at her son, and caring for her son, and helping her son to become famous and powerful in the world. He died young. And so I, which is you know almost necessary to become immortal in mythology. And he was a social and musical revolutionary. He was a very individual voice. I acquired the CDs of his very early recordings, including all of the alternate recordings that were never actually released to the public, and you can listen to these recordings track by track, and you can hear him inventing rock and roll. His band was a country band. They were more accustomed to playing country western music, and you can hear him altering track by track the impact of his music until it suited his own individual personality and hits. It was really fascinating to listen to that. So I began to think about an alternate Elvis Presley that had to do with he was a political and social revolutionary. What if he were a social and musical revolutionary? What if he were a political revolutionary as well? So I gave him a political outlook. There was a tipping point in the life of Elvis when he was drafted into the military, and our Elvis joined the army for a number of years and had to put his career on hold. But he was shown to be an example to the youth of that time. But yet his drafting into the military was a political act. On the part of some of the local politicians. They wanted to send that draft notice to put him on the spot, possibly to discredit him. And so in my story, the tipping point is that he refuses induction and becomes a political exile and charts his life from that point.
Est-ce que vous voulez dire qu'il devient complice?
Yes, yes he does. That is part of his evolution. Then he and then he develops beyond beyond the communism of the 1960s and anyway, to become a kind of a labor and industrial figure, as well as a musician. And it sort of becomes a political inspiration, and he has to do with the politics of the 60s. He marches with Martin Luther King, he demonstrates against the Vietnam War, and so on.
Est-ce que le monde aurait été meilleur avec la liste de ces communistes?
Well, there was a communist Elvis Presley. There was a, my gosh, I can't remember his name. But there was a rock star who defected to the Soviet Union. There's a biography of it called Comrade Rockstar, which is quite interesting reading. And of course, you know, as soon as he defected, he became politically compromised in the Soviet system and was unable to move beyond that. So it would have been a very difficult life if Elvis had chosen such a route.
Vous avez une question à Stéphane Mathieu. Je suis ravi d'avoir été sur le site, on peut te parler par mail, par mail interposé. La nouvelle de Georges Lacomède, est-ce que vous pouvez parler, nous donner un petit peu d'idée, puis peut-être le résumé de cette nouvelle qui est vraiment étonnant, c'est très très loin.
Bien sûr. First, I should say, I apologize once again for having no English or the dialects, thank you. Thank you for your patience, thank you for translating. I'd like to say as well, I think it's the anthologist's good idea to go back to a very first question, because you know, it's like a snapshot of who's here now and what the organisers or the organisers of the anthology thought would be a good representation of the work. It's, you know, 10 years' time would be an interesting object to look back on. But Georgia comments, it is a kind of unusual story for me, and it's quite a personal story in an odd way. I do like to do stories on the large scales of space and time, and a giant story about the end of the world. In this story, the Earth is ruined, it's 5 billion years away of subsequent left giants. And alien archaeologists come along and try to reconstruct what happened on the Earth. And they managed by hand-waving at millions to reconstruct a couple of human personalities. And they tried to reconstruct the bodies that they looked like, and they got it wrong. And my fact that this was inspired by a visit to a museum in New York, in the States, where they have a famous diorama of Australopithecines, pre-humans, reconstructed from full steps of lava that has been preserved for millions of years. And they have a male, I think he has his arm around the shoulder of a female, jumping along because of the volcano burning. And what have been there, the colour of the phone, for one thing. There's a lot of controversy about the man protecting the woman, so to speak. You know, it could have been an adult and a child. It could have been at different times, the two sets of anyway. You know, I just kind of think to reconstruct the network test. So the aliens reconstructing us, the few millions of years between us and the chimps, is it much closer to the billions. So you have modern humans up to us, waking up at the end of the world in chip bodies. Not only do you have to get the sexes wrong, but the characters are too English, straight-laced English middle-class people, who are very unhappy, and embarrassed to find themselves Chinese guy for galaxy achievement. So that was the basic idea, but the circumstances were, I wrote it at the time, we were going through a big change in our lives, we were changing jobs, moving house, and I was still working full-time, writing as a part-time, and I had no time to write for it, but I'd like to have something, you know, on the go, this was a story, kind of in a draft, a more serious draft, but kind of after an hour, I'd go back to it, and a sort of respite from the movement and the solicitors and all that stuff. And it got more humorous and more gentle as I went along. So it took quite a lot of, it took months to draft from me. And it got more gentle and funny and modern over time. So it's often been reproduced a number of times. It's been popular on the list. It's an unusual thing in my overall work. And it was also adapted by an American company as an audio drama, two-actor audio drama. And that's very strange for me to listen to. So I imagine that in English, after them to characters, now they'll be kind of straight-faced New Yorkers and Americans. And now, I guess, in the French translation, that they'll see French, or French to the flavor. So I thought I'd be able to do this to kind of like the people in a lot of that, my kind of.
Est-ce qu'on peut dire que votre route, on se réveille un jour, en fait, de tous ces passages. Ça, c'est le départ de l'intrigue. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus?
Well, that's essentially it. The aliens bless them. We want to see them at their best to our rooms first. What they can of mankind, at least a sample. Just to bring them out as kind of witnesses to the end of the world. Just as we might be back in the end of the world, or now, you know, as a relative of what it's going to call. And they get it simply wrong. To the chagrin of that's what truth comes. But you also have the, I think you do have to have a great gentle elegiac feel that they gradually understand where they are at the time, that the new is gone, and the witness is the end. But I mean, you know, simply for all the saves of the people who we may pass away, but for the people.
Je vais passer d'abord à la question du corps, la question sur le mèche. Vous avez l'honneur d'une nouvelle qui s'appelle Satan chaud et lourd comme une pierre de sein. Voilà, c'est un programme. Catherine, est-ce que tu peux résumer un petit peu le début et puis accrocher au départ?
Je vais d'abord le début, c'est l'histoire de femme qui est dans le module de système, qui se retrouve à travailler sur une vieille enquête. Pour lui demander de retrouver l'assassin de son père. Je me demande si c'est sa mère qui a assassiné son père, mais il y a 40 ans, il faut reprendre l'enquête plus tard. En fait, c'est le début de l'intrigue. C'est un roman qui va être inspiré par Elrond, un excellent auteur de polar américain, qui a eu une guerre très très massive, très agressive, avec des filles qui étaient Je me suis dit, et si on a un vaccin des valeurs. Donc, avec le médecin en face du féminin et le féminin en face du médecin. Je me suis dit de remettre trop dans les questions qui est aussi parce que vous connaissez, c'est Valérie Salanas, qui a été écrit par Valérie Salanas, c'est la femme qui a essayé de tout le monde. Et ce que vous avez dit, c'est un archétype de littérature et de langue. Voilà, la littérature et de logique, on en a énormément. Vous prenez Baudelaire, donc là, je me dis de ce que fait la femme comme une belle sexualité. Et dans le scénario, c'est la connaissance de la femme à la fin d'un texte. C'est-à-dire qu'elle a fait un même texte qui est un torrent de défis de tout le monde. C'est homme par femme, et vous obtenez une certaine position par an tous les temps. Et je me suis dit, on va faire de l'homme féminin, on va remplacer la violence masculine par la violence féminine, et seulement ça a été un résultat qui n'était pas du tout. Alors je change rien à l'homme, il est toujours plus costaud que la femme, pour que de moi c'est stylé. La chose que je change, c'est que je trouve dans la maladie chez la femme. C'est-à-dire que dans notre société, on constate que pour la maladie, l'agressivité est supérieure chez l'homme. 96% de ce qui de sens sont connus par les hommes. Si je vous dis machin a assassiné telle ou telle personne, immédiatement vous allez avoir en fait une image d'un homme. C'est rare que les femmes assassinent et gorgent une image d'un enfant par les traits. Alors que les hommes, c'est une image de jeu. Et ça, c'est plutôt pas la testostérone, mais la graine de l'imaginé, les femmes avaient tout simplement beaucoup de maladies qui l'ont mis en place. Donc ça fait des prisons remplies de femmes, ou des filles qui courent en train de voler. Quand on trouve un cadavre d'homme, ça se met dans le matin. Et ça donne un mot très bizarre, extrêmement déplaisant, alors que c'est vraiment la première bonne politique de ce qu'on vit. Et même à la correction, c'est assez difficile. Par exemple, la héroïne, elle a 25 ans, elle va épouser un jeune homme de 20 ans. Et ma correctrice a dit, tu ne peux pas te trouver dans la chronologie. J'ai dit, non. Une femme, elle préfère la chercher, c'est normal. Mais même dans la correction, là, je suis encore en train de retrouver quelques petits détails qui ne sont pas passés par le correcteur. Par exemple, je dis qu'il y a des parents inconscients qui offrent à leurs enfants, très jeunes, des motos qui vont trop vite, et on les retrouve, ils vont faire des rodéos, on les retrouve à partir contre les murs, des barrières. Et donc je dis des gosses à qui on offre autant de nombreux photos et qu'on retrouve après qui ils avaient avec eux, parce que dans ce moment-là, ce sont les femmes qui vont sur les grosses photos, ce sont les chercheurs à faire, et le correcteur a géré mon nom, parce que pour nous, c'est les hommes qui sont systématiques. Donc c'est effectivement, on a un peu, mais en général, vous faites que les rodéos sont plus souvent le fait que les hommes que les femmes. Donc même dans la conception de ce texte, il a fallu qu'il nous fasse souvent violence pour ne pas retomber dans le déjeuner de notre monde actuel. Je l'ai retranscrit en inventant le oui et le haine et masculin et féminin, j'aurais bien sûr de rien oublier. Et notamment, j'ai mis au point une chose que j'avais oublié de faire, c'est pour expliquer la violence des femmes et des hommes, toutes les femmes et une bizarre de l'homme. Donc elle voit l'homme comme une personne menaçante, donc elle ne comprend pas les motivations. Mon héroïne n'arrive pas à comprendre comment résonne son mari, comment il pense. Mais elle est contente qu'à un moment, une fois qu'il s'est occupé des enfants, il prenne un peu son indépendance parce qu'elle avait vraiment du mal à rentrer dans le psychisme un petit peu bizarre de l'éternel masculin. Donc j'étais obligée d'inventer cette image de l'homme vu par la femme comme une créature à la fois séduisante et inquiétante qu'on a à la fin de la vie. Et après j'étais obligée donc de tout remasculer en masculin féminin et de me battre avec le correcteur pour qu'il aille dépasser justement toutes les scories auxquelles on est habitué dans un monde justement qui n'est pas du tout bipolaire. On n'est pas du tout dans un monde bipolaire et en réduisant ça, j'ai compris qu'il y avait un fort de l'équilibre à la fois dans l'être et dans le hormone, mais aussi dans l'imaginaire. Voilà. Donc j'en ai compris que ça serait sûrement pas un monde meilleur si on inversait le mâle et la femelle et qu'on donnait chacun des photos.
Oui, parce que maintenant, il y a autant de crimes, il y a autant de viols, il suffit de violer des enfants.
Voilà. Il suffit d'un instrument contre nous.
Voilà, pour les amateurs, c'est dans le cadre de l'Occident. Alors, on va poser la réflexion à Jean-Philippe. Jean-Philippe, qui nous a fait pour le coup une nouvelle assez étonnante, puisqu'il relève plus de la fantaisie. Est-ce que tu peux nous en donner une grande idée?
Alors, pour commencer, le thème des mondes meilleurs, moi, ça m'a tout de suite angoissé. Ça m'a angoissé parce que je me suis dit, un projet de monde meilleur, ça a toutes les chances de déboucher sur une catastrophe. J'avais tout de suite en tête les réalisations que ça allait faire. C'était mon premier réflexe. Ensuite, je me suis demandé qu'est-ce que je pourrais raconter en recette là-dessus, qui n'est pas déjà été écrit, qui n'est pas plus ou moins extravant dans le cadre d'une nouvelle. Et puis, j'ai eu un écrit. Je me suis dit, mais les mondes meilleurs, il y en a déjà eu dans le passé. Pas forcément des mondes meilleurs réels, mais en tout cas, des âges d'or, il y en a déjà dans le passé. Il y en a en particulier que tout le monde connaît, il y a été très très fugitif, c'est le monde des chevaliers de la table ronde. Ça, c'était un exemple de monde meilleur qui a marqué l'imaginaire pendant des siècles. Et dans le monde des chevaliers de la table ronde, il y a des symboles. Donc un symbole qui est pour moi emblématique de toute l'ambiguïté du projet de monde meilleur, c'est l'effet de souveraineté. La justice représentée par une arme. En soi, c'est contradictoire et c'est quelque chose d'effrayant. Et je me suis demandé, mais d'où ça vient? D'où vient ce symbole, le symbole guerrier, qui a fini par devenir un symbole positif? D'autant plus que l'effet de souveraineté, l'effet de justice, on la trouve régulièrement dans la pensée médiévale, on la trouve quasiment pas dans l'Antiquité. Donc il y a un moment où ça apparaît. Alors j'ai cru identifier ce moment où le mythe de l'effet de souveraineté qui va construire un monde meilleur apparaît. Et je ne vais pas le dire trop. On peut dire que. Non, je vais dire trop de fin de déformer la nouvelle. Hein. Et c'est lié aussi d'ailleurs à l'apparition par exemple du mythe du dragon. Le mythe du dragon qui est finalement assez peu présent dans l'Antiquité, il va s'imposer brutalement au Moyen-Âge, il est toujours lié d'ailleurs au monde arthurien. Alors même fortement sur le monde arthurien. Mais j'ai cru identifier, et je me suis dit, j'avais construit une nouvelle là-dessus. Donc le sujet de la nouvelle, il semble effectivement être complètement fantaisie, puisque au début, on a un roi qui va visiter un dragon et qui lui dit, je veux une énergie. Et qui se fait, qui passe commande d'une épée magique. Ce qui effraie assez le forgeron, parce que le forgeron dit oui, une épée magique, je suis capable de t'en forger une, mais je connais d'autres personnes qui sont capables de t'en forger une, et qui lui demande pourquoi tu veux une épée magique. Et le roi nous répond, parce que je veux plus, je veux construire un monde meilleur. Et du coup, le forgeron est toujours là. Pour ça, j'ai mieux à lui proposer, je peux peut-être le réaliser, mais ça dépend aussi de toi. Je peux te proposer de fabriquer une épée sacrée. Et dans la suite, c'est sur la fabrication de cette épée, sur l'usage que va en faire le roi, sur l'usage catastrophique que va en faire le roi, sur ses connexions surprenantes, peut-être avec notre propre monde et notre propre histoire. Est-ce qu'on peut donner des ingrédients pour fabriquer une épée sacrée? Alors, on peut aurait une épée sacrée, en tout cas, dans ce monde-là, que vous connaissez, hein, puisque ce roi, le roi Zantikos, monarque des rocs sonnants, vit en Sinaï. Alors, pour fabriquer cette épée, le forgeron va exiger plusieurs clartés de charbon de bois, du fer doux, c'est bien, pour la résistance de la lame, il y a un peu de fer dur pour la tension de la lame. Il veut également des esclaves, parce que vraiment, du temps, je vais dire, on est dans un monde primitif, il ne peut pas se soucier de ses troupeaux, on vient de quelqu'un se soucier de ses troupeaux. Comme le forgeron est aussi associé, c'est la raison pour laquelle le roi l'a blessé, il a passé commande, le forgeron demande aussi, en compensation des esprits qui doivent être dans l'épée, qu'on donne un fils de chef en mariage à sa fille. Et puis, il y a une dernière composante, et c'est la plus problématique. Le forgeron dit au roi, ensuite il faut tremper.
Pour avoir une épée magique, il faut la tromper dans la poitrine d'un homme jeune. Ce qui a été une pratique dans la forge qu'on retrouve jusqu'au milieu du Moyen Âge. Pas forcément en Occident, mais en tout cas, on trompait l'épée dans la poitrine d'un homme pour aspirer sa force et l'attribuer à l'armée. Mais quand je vous dis au roi, je ne suis pas le seul à faire ça. Donc si on sent un fils cette épée dans le corps d'un homme, il y en a d'autres qui sont capables de forger des épées sans l'avoir été mis. Donc ce qu'il faut faire pour avoir l'épée sacrée, c'est qu'il faut tremper l'épée dans le corps d'un animal fabuleux et lui propose trois possibilités. Tremper l'épée dans un oiseau de feu, tremper l'épée dans le corps d'un dragon, tremper l'épée dans le corps des sorcières. Et le roi réfléchit un peu, et il me dit que ça lui plaît. Il va trouver. Je ne dis pas qu'il finit par trouver, mais il trouve quelqu'un pour la France de cette équipe.
Ce n'est ce qu'il pourrait s'affaire pour avoir un début ou un camion sacré, donc on a plutôt cuisine. C'est pas un appel à affronter tous les jeunes hommes qui passent, c'est important. Plutôt, ça peut être sur scène, mais du coup, la campagne, qui doit le plaisir de faire la préface. Entre nous, on appelle Serge Lehmann, parce que Serge Lehmann a fait la préface de le petit Serge Lehmann.
Non, je suis très bien.
Est-ce que tu pourrais un petit peu de la préface sur l'exemple meilleur de quel point de départ tu es parti?
Alors d'abord, je suis ravi que tu me demandes ta carte. Et je suis ravi d'avoir pu être accompagné et être aux côtés de tous les auteurs qui sont à jour, mais ce n'est pas tout ce qui se fait. Et alors en fait, comment j'ai travaillé, en fait, ça va être. Je vais pas dire ce qu'il y a dans la préface, évidemment, moi je ne dirais rien. Je voulais dire la préface, il faut acheter tout ça. Mais par contre, je vais dire comment j'ai réfléchi. La notion de monde meilleur, je travaille dessus en tant qu'historien des idées. Notamment, je travaille sur l'histoire de l'utopie, donc c'est un thème très important pour moi dans mon travail universitaire et en même temps dans mon travail d'auteur. Alors en fait, je me suis dit, il y a plusieurs manières de le procéder. La première, c'est de revenir sur l'historique de la notion de monde meilleur et de faire une préface extrêmement didactique qui allait resituer la réflexion sur le monde meilleur et l'ouvrir sur les textes des auteurs et qui présentent. J'étais parti sur ça au départ, alors un côté très pédagogique, on va dire. Ensuite, je me suis dit, ce que je peux faire aussi, c'est prendre tous les textes des auteurs, regarder ces textes, les analyser, et en tenter une synthèse dans la préface, mais dans ce cas-là, là aussi, ça aurait été sans doute quelque chose de déjà fait. Alors finalement, à force de réfléchir, pour moi, c'était très important cette notion de monde meilleur. J'ai tout laissé tomber. J'ai laissé tomber ce didactique. Donc on n'aurait pas apporté grand-chose qui pouvait être fait par ailleurs. J'ai laissé tomber le côté synthétique qui aurait un petit peu défloré les textes et qui aurait été un jeu où je me faisais plaisir moi finalement en mêlant les éléments de tous les textes et qui aurait pas été finalement une vraie mise en valeur de ce texte-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'ajouter ma voix. Et donc j'ai tout mis de côté et je me suis laissé par mon intuition. Mon inspiration du moment, un peu comme j'avais fait Jadis pour une certaine autre anthologie d'actualité. Et donc j'ai tout balancé, je suis devant l'ordinateur, je dis voilà, où sont passés le monde meilleur? Est-ce que véritablement le monde d'aujourd'hui est un monde fermé aux alternatives utopiques? Est-ce que l'utopie c'est encore un moyen aujourd'hui de réfléchir au monde et à son avenir? Et donc j'ai tout mis de côté, je suis devant mon clavier et j'ai laissé parler mon cœur. Et la manière dont je voyais le monde meilleur, et ce que j'avais envie de dire aux gens, en espérant que vous avez envie de dire aux lecteurs de l'anto, qui s'ajouterait harmonieusement au texte merveilleux de l'auteur de Jésus. Voilà, donc ça a été vraiment, finalement, ce qu'on fait.
Oui, moi j'ai juste lu la préface de Hugo hier soir, je n'ai pas encore lu les autres nouvelles. Il faut absolument lire cette préface, hein. C'est une préface dont vous êtes les héros.
Oui, je vais se souvenir d'ailleurs.
L'idée, c'est qu'il s'est demandé un petit peu si finalement nous n'étions pas dans un monde meilleur aujourd'hui.
L'idée, ce que j'ai voulu, c'est, en fait, par rapport à la religion, c'est qu'on réalise aussi qu'à force de dire que notre monde est pourri, on finit par le faire pourri. Et que donc, j'avais envie aussi de vous transmettre ce message, c'est que lire de la science-fiction, lire des textes aussi divers et aussi variés que des textes qui sont proposés dans cette anthologie, c'est garder l'ouverture, garder notre capacité à penser l'impensable, ou à ce que l'on veut vous faire croire comme étant impensable, et que finalement, notre monde n'est peut-être pas aussi pourri, et qu'en tout cas, même si il y a beaucoup d'éléments négatifs dans notre monde, il y a toujours des éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour s'orienter et tourner votre regard vers un futur plus drôle, plus amusant, plus éclatant, plus jouissif.
Très bien. Il nous reste 10 minutes, simplement. Alors, on va passer aux questions, sinon on va continuer la discussion. Quelqu'un a une question à poser aux auteurs, sur les thématiques que vous venez d'entendre. Simplement, je vais revenir sur le phénomène des anthologies. Est-ce que c'est important de figurer dans des anthologies, dans l'anthologie du festival, quand on est auteur, parce qu'on fait une nouvelle structure, on s'inscrit dans un projet, ou est-ce qu'au contraire, pas du tout? Qui peut répondre? Monsieur Baxter, peut-être.
As I said before, I've been involved in a number of conventions in the past, which have had anthologies associated with them. And in a sense, if you look back at them, it's like a group chose about them, where who is there. And the more importantly, maybe, what creates in the anthology for them is somewhere representative of that group or the theme of the convention. So I think thinking about long-lasting artifacts, which I mean, after all, this is a convention scale of literature, as it's still a phenomenon, going on. So having a literature artifact to continue is a good thing. There's no comic anthology, I guess that's fair with the question.
Alors, je peux répondre par des autres processus, c'est important, mais est-ce que c'est important d'être dans des anthologies, et dans celle-là particulièrement?
Allô, vous êtes là? Je suis très bien de l'anthologie, un peu plus que je peux. Et que l'anthologie, quand je fais le... Quand je fais le volant, je sais que je suis très flatté qu'on me donne en anthologie, qu'on me donne...
Oui, tant mieux, on est en excellente compagnie, donc on s'est très très flatté d'être dans une anthologie. Mais à la limite, moi je me fais un peu l'effet d'être un paradis, quand j'ai vu effectivement tout le volage, j'ai bénéficié de retomber de la renommée des anthologistes. La même loge aussi, ça peut être réel et elle est calme. Est-ce que quelqu'un a un petit mot dire, peut-être Pierre?
Oui, mais je suis vraiment dans cette partie d'anthologie, puisque c'est l'anthologie du festival. Et puis, moi, je ne suis pas un auteur naturel de nouvelles, j'ai l'habitude beaucoup de provoquer pour qu'on soit des nouvelles, sinon je ne faisais pas tout seul. Donc, il faut un thème, il faut bien un, mais je fais une nouvelle, et je suis à la fois content qu'on me propose des sujets qui m'obligent à faire cet exercice court qui est la nouvelle pour lesquels je suis vraiment un spécialiste. Et puis, aussi, le fait de figurer dans l'anthologie, maintenant, pas la même chose, mais quelque chose de très sympa.
Bon, on vous remercie en tout cas, vous avez compris, elle s'appelle Utopia 09, elle est envoyée dans le rideau sans la QSF à côté du bar, c'est facile à trouver, et vous pouvez bien évidemment vous être communiqué par tous ces auteurs. Merci beaucoup à tous.